Une chance qu'on s'aime. Une chance qu'on s'aime. Une chance qu'on s'aime.
Ben merci d'être avec nous autres, c'est cool. Toi, t'es à Québec, c'est ça?
Moi, je suis à Québec, ouais. Je suis une citoyenne de la ville de Québec, agronome urbaine, solide.
Fait que ouais. Là, il reste de la neige chez vous, là.
Ah, oh, qu'il y a de la neige. J'ai jamais vu ça en 50 ans que je suis à Québec. Je suis vieille, là. Je suis pas mal plus vieille que vous autres. Puis j'ai jamais vu ça. Je suis tellement tannée, j'ai hâte de jardiner, puis il y a encore de la neige sur mon jardin.
Puis il va parler de quoi, ton livre?
Mon livre qui va sortir cet automne, parce que là, il est chez l'éditeur, il est en train de se faire une beauté, va parler des germinations et des pousses.
Oh, c'est un bon sujet, ça.
On jardine en hiver, on continue de jardiner en hiver avec les germinations et les pousses.
C'est combien de temps écrire un livre, Lily, pour le fun? Moi, c'est un rêve que j'ai jamais réalisé encore, là.
Tout le monde me demande ça, puis quand je commence à écrire, là, je l'indique, je mets le temps. Là. Bon, j'ai fait 5 heures cette semaine, j'ai fait 7 heures, j'ai fait 10 heures. Plus ça va, puis c'est 10, 20, 30. À un moment donné, j'arrête de compter parce que ça n'a pas de sens.
Ah ouais, OK.
C'est, ben, tu sais, moi, ça me prend entre 2 et 3 ans, là, à travers mon travail, là. Je fais ça à travers mon travail, je fais pas ça à plein temps. Ben, sauf que, tu vois, là, le mois de mars, là, c'était à plein temps, là, c'était... 60 heures par semaine, je pense. Mois de mars, là, c'était juste ça, là, avant la tête grosse comme ça. Là. C'est beaucoup, beaucoup d'heures. Des centaines d'heures.
Ouais, OK. Ouais. Fait qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit.
Ben, c'est parce qu'il faut savoir quand ça finit, parce que moi, j'ai des délais à respecter. Okay.
Ouais, l'éditeur, lui, il sait quand est-ce que ça finit. Hein?
Oui, à partir du moment où je signe le contrat, parce que je signe un contrat d'édition, ben là, c'est indiqué, tu dois remettre telle date. Alors, cette année, c'était le 1er avril, et j'ai remis le 1er avril à 5h moins 4. Je l'ai remis.
Wow, OK.
Oui, il fallait. Ouais.
On connaît le nutritionniste urbain, mais là, on découvre l'agronome urbaine. Là, on sait ce que ça mange en hiver, là. C'est des micro-pousses puis des germinations.
Oui, c'est pas mal ça. Puis je peux te dire que j'en ai mangé pas mal cet hiver. De toutes les sortes... C'était fascinant, tu sais, je veux dire, moi, quand j'écris un livre, ce que j'aime, c'est que ça me force à aller à la limite de mes connaissances.
Oui.
Tu sais, je donnais déjà des ateliers là-dessus, je connaissais ça, là, tu sais, mais là, on parle plus de 20 types de graines,
non,
j'ai
non,
monté
non.
Jusqu'à 51.
Wow.
Fait que, j'ai mis des affaires communes, là, ouais. Mais des affaires pas mal moins communes, là.
Peux-tu nous en nommer une qui est surprenante?
La gastache.
Ah,
OK.
C'est la dernière que j'ai inclus dans mon livre parce que j'avais pas prévu. Je voulais me rendre à 50. J'ai travaillé fort pour me rendre à 50. Les deux dernières, le 49-50, je cherchais les graines. C'était pas facile. J'ai bûché. En tout cas, je suis arrivée à 50. J'ai dit, yes, on arrête ça. 50, c'est beau. Je vais dans un restaurant. On me sert un plat. Il y a une petite pause dessus. Je goûte que c'est ça, de la gastache. Ah ben, quand même, ça me prend ça. Fait que là, je l'ai ajouté, c'est pour ça qu'il y en a 51.
Mais à c'est gastache, c'est vraiment un nom pour notre émission. Nous autres, j'adore ça, à oui. Gastache. À chaque torchon, ça guénée, ou je sais pas trop comment on dit ça. Il y a même des agastaches. Je savais pas ça.
Ah non, ben, c'est parce que moi, je cultive ça depuis des années dans mon jardin. C'est une super belle plante. C'est une fleur qui est super belle. Elle attire les pollinisateurs. Je me fais des tisanes avec. Puis là, je vais garder les graines, puis je vais me faire des pousses avec. Puis j'explique dans mon livre, justement, qu'il y a plusieurs graines qu'on peut ramasser dans notre jardin pour les utiliser durant l'hiver à faire des pousses.
Mais pour faire des pousses, quand on fait des pousses l'hiver, là, c'est un petit assaisonnement qu'on fait pousser chez soi ou c'est de la nourriture. Tu sais, tu te fais pas un repas avec ça?
Non, tu fais pas un repas. C'est complémentaire, mais en même temps... Au niveau nutritif, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose de frais, quelque chose de vivant. Donc, tu sais, l'hiver, souvent, on mange des choses cuites, plus grasses. Et l'intérêt des pousses, c'est que ça, c'est à cause des enzymes, ça nous aide à digérer. Donc, c'est toujours intéressant d'en ajouter. Donc, ils ont quand même... C'est pas juste décoratif, là. C'est très décoratif, c'est sûr. Là. Ouais. C'est beau, tout de suite, tu mets ça, tu prends n'importe quel plat, un spaghetti banal, puis tu mets une petite poignée de pousse, puis tout de suite, ça fait un petit « womf ». Mais c'est intéressant aussi au niveau nutritif.
Ben, tout le monde parle de l'importance de manger en saison, de manger local. Fait que là, on vient tricher un peu là, en le faisant. Ben, c'est une bonne idée, ça.
C'est ça. Je dis, tu sais, quand je parle de... Souvent, j'en parle dans mon livre, tu sais, tu dis de plus en plus, on parle de manger local, puis ben là, ça peut difficilement être plus local que ça. Là, c'est de la table à la table. Tu fais ça dans ta cuisine, puis tu manges dans ta cuisine. C'est dur de battre
c'est
ça.
C'est dur à battre. Il y a juste 10 pieds.
Ah, puis ton livre de la tomate, lui, comment que ça s'appelle?
La tomate de la terre à la table. Ouais. La tomate, je la cultive pas à l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui le font, là. Moi, ça prend un éclairage un petit peu trop sophistiqué. En tout cas, je suis pas rendu là.
Cette saison-ci, Lily, on parle beaucoup avec nos invités d'autosuffisance. Tu sais, il y a quand même une utopie, puis bien sûr, tout le monde nous ramène à, ben là, l'autosuffisance, Pierre-Luc, P.A., là, c'est un certain pourcentage, là, puis tu sais, on est tous d'accord là-dessus, moi, c'est ça, je dis toujours, je fais pas pousser mon papier cul encore, fait que c'est sûr, il va falloir que j'y aille à l'épicerie, là. Mais par exemple, la pousse, elle, elle nous sauve un peu, là, du déprimant ragoût d'avril, là, de vieille courge butternut.
Oui, absolument, justement, dans le but d'être autosuffisant. Parce que moi, même si je suis en ville, mon terrain, il n'y a pas de pelouse dessus. C'est des plantes comestibles, principalement. Ça fait que je récolte une certaine quantité quand même, là. Et il y en a beaucoup qui est en conservation, tu sais, mise en conserve, déshydratation, lactofermentation. Fait que tout au long de l'hiver, je me nourris pas juste avec ça, là. Je veux dire, honnêtement, je vais en chercher, en acheter des bananes bio aussi à l'épicerie, là, tu sais.
Ouais.
Mais ça complète, c'est frais, c'est que vraiment dans l'autosuffisance, là. Puis si tu regardes au niveau des coûts, parce que, évidemment, tu peux en acheter, mais tu vas aller chercher une petite barquette comme ça, c'est 4-5 $ facile. Puis des fois, ça fait déjà quelques jours que sur les tablettes, tu arrives avec ça chez vous, ouf! Ça dure pas longtemps.
Écoute, Lily, dans la classe de cinquième année du primaire à mon fils, là, la prof a fait pousser des pousses de tournesol. Là, puis c'est le party quand elle sort ça. Là, puis c'est tellement bon, c'est gonflé. Puis...
Ben, c'est sûr. Des pousses de tournesol, là, c'est des chips, c'est des croustilles.
C'est vrai.
On mange ça comme des croustilles.
C'est vrai.
Carrément. Tu commences à... Tu te gâtes à ça, là, ça se mange, là, c'est vraiment le fun.
Puis une chic de maïs, de pousse de maïs, on rumine ça comme une vache, c'est trop passé droit.
C'est sucré, ça, c'est bon.
Ben, c'est sucré, mais ça peut devenir ligneux.
Le défi de la pousse de maïs, c'est qu'il faut qu'elle pousse à la noirceur.
Oui, c'est ça. Pour le côté look jaune, blanc.
Non, c'est pas juste une question de côté look, justement, c'est pour pas qu'elle soit fibreuse.
Ah, parce ben voilà.
Si tu laisses pousser sévère, là, moi, je ne mangerais pas ça, là.
T'sais? Non, t'as
mais quand c'est à la noirceur, puis c'est encore bien jaune, là, c'est délicieux.
Une petite curiosité, moi, j'ai remarqué que les semenciers vendaient de plus en plus de différentes sortes de pousses. J'ai même vu de la carotte sur certains sites. Là, tu as parlé de t'approvisionner dans ton jardin. C'est lesquels les plus faciles, sinon lesquels que tu recommanderais peut-être de commencer?
Les plus faciles, je dirais, que tu peux ramasser dans ton jardin?
Oui, pour faire des pousses soi-même.
OK. Ben je dirais ce qui provient des fleurs. Tantôt, j'ai parlé de la gastache. Ça peut être la capucine, la marante.
Oui.
La marante, ça produit. Fait que t'as plein de graines, tu peux garder ça. Puis, je dirais les fines herbes aussi, là. Coriandre, entre autres. Je ramasse des graines. Fait que, surtout à ce niveau-là, tournesol dans les fleurs aussi, ça peut être possible. Les légumes, c'est plus compliqué, là. Tu sais, les carottes, là, c'est une bisannuelle, là. Fait que, là, on embarque pas là-dedans, là. Ça, c'est plus compliqué. Mais, celle-là, sinon, ben, on achète des graines. Puis, effectivement, on peut faire des pousses de carottes.
OK.
Personnellement, c'est pas mes préférés. Personnellement. J'ai des petits coups de cœur, là. Carottes, moi, j'aime moins les choses qui sont... J'aime moins l'amertume.
Okay.
Mais, tu sais, les goûts sont...
C'est variable.
Sont à discuter, là. Tu sais, moi, j'aime moins ça, mais il y a des gens qui vont aimer ça. Moi, la carotte, c'est pas ma préférée.
Le côté piquant des crucifères, celui-là, tu l'apprécies?
Oui. OK. Oui, intéressant. Des radis aussi, c'est intéressant.
Oui.
Ben, tu sais, t'en mets moins, là. Puis souvent, c'est piquant si tu manges ça de même, là, mais avec le reste des aliments, ben, ça fait un petit piquant intéressant.
Ça, c'est assez facile de s'équiper, tu sais. Tu peux faire ça un pot maçon, puis un petit filet. Puis toi, t'es-tu plus du type, justement, pot maçon reviré à l'envers sur le trois quarts, ou bien t'as le gras, la grosse
patente?
Écoute,
moi, j'ai commencé, si on parle de germination, là, j'ai commencé à faire des germinations il y a 50 ans. Très longtemps. C'était à mode dans mon époque grano, là, c'était à mode. Vous ne pouvez pas le savoir, vous autres, vous n'étiez pas là, là.
On n'était pas loin. On n'était pas loin, mais on n'était pas ouais. là.
Puis on faisait d'abord la luzerne, puis des fèves germées. C'était la seule chose qu'on faisait, puis avec des pots maçons. Pour mon livre, là, j'ai toujours fait ça avec des pots maçons, mais pour les besoins de mon livre, j'ai testé tous les germoires. Tout. Ça m'a coûté une fortune, honnêtement.
Ah, ça, toi.
Là, il y en a plusieurs qui sont à vendre.
Marketplace.
Mon préféré, c'est le pot maçon.
Ah ouais, OK.
Toute catégorie. Ah oui, pour les germinations, c'est mon préféré. Ça fonctionne bien, ça se lave bien. Puis, parce que je parle souvent de l'approche éconologique pour économie et écologie. Puis souvent, je reviens souvent là-dessus dans mon dernier livre, là, en disant, ben moi, je choisis ça parce que c'est plus écologique. Puis le pot maçon, c'est le choix écologique.
Wow.
Vraiment.
Hey, Lily, tu peux-tu démystifier un peu pour les gens comme Pierre-Luc, dans le fond, qui peuvent confondre germination et pousse, micro-pousse, juste être sûr qu'on...
Ouais, moi...
Germination, ben les deux, tu pars de la même graine, là. Il y a des graines qu'on peut faire des germinations et des pousses. Il y en a que c'est préférable de faire juste des germinations, d'autres juste des pousses, mais il y en a quand même plusieurs que tu peux faire les deux. Quand tu fais des germinations, tu fais germer la graine. Il y en a que aussitôt que le germe est sorti, là, je pense aux pois chiches, entre autres, là, aussitôt que le germe est sorti, c'est prêt. Okay? Ça, c'est une germination. Il y en a d'autres, comme si tu fais de la luzerne puis des radis. Là, il va y avoir le petit cotylédon qui va sortir, là, la fausse feuille, si on peut dire. Là, tu vas les mettre à la lumière quelques heures, ils vont verdir un peu, puis c'est prêt. C'est court, là, faire des germinations, OK? Fait que ce qu'on mange, c'est finalement le petit germe, des fois avec le cotylédon, et la graine.
OK, la graine.
On se rend jamais à la feuille.
Non, puis même les micro-pousses, si on va du côté des micro-pousses, c'est aussi des cotylédons qui vont sortir, qui ça prend de la lumière. Ça peut être bord de la fenêtre ou d'éclairage artificiel, ça prend de la lumière. Puis là, on va les couper. Donc on mange pas la graine. Pion. Ça se fait sur terreau ou sur tapis synthétique, là. Moi, je préfère le terreau, là, honnêtement, là. Moi, je suis une fille de terre.
Ouais.
On le met dans la terre, je préfère le terreau, puis je trouve que mes pousses sont plus belles. Fait que, on les coupe, donc on mange pas la graine.
Mais en plus, c'est que si tu le fais avec du terreau, Lily, ça rejoint ton deuxième livre, Le compostage domestique, c'est bien ça le titre, ou je me trompe?
Exactement. en fait, c'est le compost pourquoi comment. Il a changé de titre en cours de route, là.
OK.
Au début, c'était tout sur le compost. Maintenant, c'est le compost pourquoi comment. Ben oui, ça rejoint.
Il faut. Puis c'est ça. Fait que la germination, il y a la graine, la semence. Fait que c'est très nutritif. Puis il y a la radicelle aussi. On a le début de la racine, l'amorce de la racine qui
est
là.
Exactement. Oui.
Qu'on n'a pas dans le micro-pousse.
Mais c'est quoi la différence? Pourquoi je vais faire germer mon pois chiche? Il va se transformer au niveau nutritionnel?
Ben oui. Là, oui, ça va être différent parce que là, il va faire de la photosynthèse. Je veux dire, avec la lumière. C'est que là, tu vas avoir d'autres
nutriments,
vitamines, d'autres nutriments, c'est le mot que je cherchais, qui peut être intéressant. C'est deux choses différentes. Là.
Ben oui, t'as un livre aussi qui s'appelle « Mon potager santé ».
Oui.
Donc, tu sais, souvent, on voit l'association jardinage et écologie. On parlait tantôt de manger local, tout ça. C'est quoi l'association que tu fais, toi, entre jardiner puis la santé?
Moi, je dis souvent que la santé des plantes, la santé des animaux, la santé des humains, la santé de la planète, c'est un tout indissociable. Quand je prends soin de ma planète, je prends soin de ma santé. Quand je prends soin de mes plantes de façon saine, je prends soin de ma santé. C'est indissociable. C'est tout pogné dans un pain, cette affaire-là. Donc, c'est vraiment le lien. Puis d'ailleurs, c'est ça, mon livre « Potager santé », j'en parle de mon cheminement que je viens de vous présenter. Là. Pourquoi j'ai appelé ça? Pour moi, c'était évident. C'était santé, santé, santé. Puis quand je parle dans mes formations, souvent, les gens me disent « Hey, j'ai une bébite, qu'est-ce que je fais? » Là, je dis « Un instant, on va parler d'abord de prévention. Hein? » On parle de prévention. Puis, si tu as un problème, vraiment, ben là, on verra le curatif. T'sais? mais c'est d'abord et avant tout la prévention. Puis je rencontre souvent des gens qui me disent « Hey, moi, là, je ne veux pas utiliser de pesticides, qu'est-ce que je fais? » Je dis « Un instant, l'approche écologique, l'approche santé, ce n'est pas une approche où tu évites certains produits pour en utiliser d'autres. Tu sais, c'est pas une approche de produit, c'est des pratiques, tu sais.
Mm-hmm. Donc, la même chose que tu faisais, c'est le même sentiment que tu avais en infirmerie, comme infirmière, c'est un peu la même vision que tu as avec le potager, prévention.
La même vision, tu sais. Je dis aux gens, on le sait tous que si on veut être en santé, il faut bien s'alimenter, il faut faire de l'activité physique, il faut pas fumer, etc. On le sait, là, c'est prouvé, là. Je veux dire, plus personne peut contester ça. Il y a 40 ans, les gens contestaient ça. Moi, je disais, fumez pas, des cigarettes dessus, les gens me disaient, ah,
bah oui. C'est pas ça que mon médecin a dit, ouais. C'est ça.
Ma grand-mère m'a 95 ans, tu sais. Fait que, mais aujourd'hui, on peut plus contester ça. Mais c'est la même affaire pour les plantes.
Ouais.
C'est la même affaire. Tu sais, on vise la santé, on travaille sur la santé. Des plantes, puis on a moins besoin, on laisse faire la nature un peu. Là.
Aujourd'hui, on conteste un peu certaines personnes, du moins les changements climatiques, puis dans 40 ans, ben c'est ça, ça va être rendu la norme, puis j'imagine les gens vont être ralliés à ça, mais peut-être c'est... trop tard, malheureusement, pour certains d'entre nous. Là.
Hey, moi, je parlais d'environnement, là, il y a 26 ans quand j'ai parti. Ben... là. Je faisais regarder de travers, tu sais.
Ben, penser faire une ferme bio en 86-88, déjà là, ouais. Tu sais, ouais. c'était pas le réseau ouais. des fermiers de famille n'existait pas, là, tu sais, c'est
non, non,
c'est hot,
non,
là.
Non. Non. Puis quand je faisais, tu sais ça, au début, je faisais des formations sur le compostage domestique, j'avais deux personnes.
Ouais, puis là?
T'es arrivé, j'en avais une.
Ouais.
Cette semaine, 150. T'es en Zoom, là, quand même, mais...
Est-ce que tu partages? Et nous autres ici, moi j'habite à Victoriaville, là, puis ouais. ils ramassent notre compost ouais. là, toutes les deux semaines. Là. Moi je trouve que c'est du vol. Me fait voler mon terreau. Fait que.
T'es pas obligé de le donner?
Non, je donne pas non plus. J'envoie ouais. ça en arrière de chez nous.
Ben oui, c'est
je
ça.
Je suis pas d'accepter le compost de mes voisins.
Là. Écoute, moi je l'ai dit, je suis en contact avec les gens de la ville. Puis nous autres, c'est pas implanté encore. Ça va devenir ça va se faire progressivement cet automne. Ça va être la méthanisation. Là. Moi, je lui dis. Tu l'auras pas, moi, ma matière organique.
C'est à moi, ça.
Tu la gardes. Écoute, moi, j'en veux dans mon jardin.
On est comme timé dans la petite vie, sauf avec notre compost.
Oui, mais hein? Oh oui, je suis timé fort, moi. J'ai 6 composteurs. là, puis garde, c'est plein, là, puis... ouais. Wow. Là, j'attends que la neige fonde pour faire ma lasagne dans le jardin, là.
Ah, OK.
Ouais. Ouais, parce que c'est long à dégeler le compost, hein. Ça prend un sacré temps avant que ça soit dégelé jusqu'en bas, là.
Ouais, ben c'est ça. Moi, comment je fonctionne aussi le printemps, c'est que durant l'hiver, j'accumule mes résidus. Je les accumule dans des seaux de 20 litres, là. Dehors, ils sont gelés. Fait que j'ai une dizaine à la porte à l'extérieur, là, qui attendent, là. Puis, quand je vais être capable d'aller dans le jardin, là, je fais ma lasagne. J'ai gardé des feuilles, je monte ça, blablabla. Je mets une toile là-dessus, je brasse ça aux deux semaines. Puis, au mois de juin, je plante mes courges là-dedans.
Ooh.
Sont follerettes.
Ouh. T'as essayé de faire une citrouille géante là-dedans, un de ces quatre ou.
Non, je suis pas à court géante, là, mais je veux dire, ça produit.
Ça doit, hein?
Fait que ta première année de maturation de compost,
même pas une première année, c'est deux mois.
Ouais.
Ah, ouais.
C'est frais. Non, c'est.
Puis l'année d'après, tu l'envoies dans le jardin, c'est ça?
Ben, je veux dire, il reste dans le jardin.
Tu vas implanter une succession dedans, une autre culture.
Je fais la rotation,
ouais,
moi, là.
Ouais, ouais.
Fait qu'il reste là, l'année d'ensuite, mais je fais mon tas ailleurs, là, je me déplace, là. Je fais pas la même place.
Donc, t'as un tas de compost. C'est l'endroit où ton compost mûrit, puis l'endroit où tu droppes tes restants de table, c'est la même place.
Ben, en fait, non. Je veux dire, j'ai des composteurs pour, durant l'été, là, ça va au composteur, OK?
Ouais.
Il y a juste le printemps. Quand je peux rentrer dans le jardin, où je fais, j'appelle ça ma lasagne compost,
ouais.
où là, je fais ma lasagne.
Tu dis ça, la lasagne, dans le fond, c'est une couche de feuilles, une couche de résidus.
Une couche de résidus de cuisine, puis je mets un petit peu de terre. Puis, je la fais, j'ai ma planche de culture qui est dédiée aux courges ou aux concombres, je vais voir. Là.
Ouais.
Fait que ça, je le fais sur ma planche de culture. Fait que ça va être ma planche de cucurbitacée, essentiellement. Je n'ai pas d'autre chose là-dedans, là. Ben, essentiellement ça, puis au mois de juin, je plante là-dedans. C'est pour ça là, que j'ai hâte que la neige fonde, parce que d'habitude, elle est faite, c'est ainsi, là, tu sais.
Hey, mais si, moi, je fais ça sur la pelouse, ça va-tu être correct? Tu sais, au lieu de... Parce que moi aussi, je parais ça, là, je peux pas faire ça là où il y a de la pelouse, hein, non?
Attends un peu, là. Tu peux pas faire ça si t'as pas accumulé des résidus de cuisine durant l'hiver.
Oh oui, non, c'est clair.
Tu peux pas accumuler des résidus de cuisine, même à ce temps-ci, quand il commence à faire chaud, là, ça va sentir mauvais.
Ouais. Ça prend de l'azote, là, c'est ça. Là,
C'est parce que c'est aussi la méthode en une opération. Ça se fait essentiellement si tu as beaucoup de matière tout d'un coup. Fait que faut que tu l'aies accumulé, puis ça s'accumule l'hiver parce que c'est gelé.
Ouais.
Mais on peut pas l'accumuler l'été.
Lily, je pense que tu es après avoir un nouveau client. Là. Pierre-Luc, je le vois, là, les gens ne le voient pas, là, mais là, il songe, là, il est dubitatif, là, puis il va s'inscrire pour
comprendre. J'ai chaud, là, je vais réfléchir, là, je suis en train
de... Ça t'allume, hein, c'est cool.
Je pensais pas que j'allais te...
Ben, c'est parce que moi, mes courges, j'y pousse accidentellement dans mon compost. T'sais, c'est des graines de l'année passée, c'est tout le temps des courges spaghetti qui poussent là-dedans, généralement, ou du butternut.
OK.
Puis là, je me dis, ah, ben là, ouais, j'en ai énormément, j'en ai trop de compost. PA, il me chicane parce que je mets trop d'amendements dans mon jardin. Il dit le compost, c'est pas un couvre-sol. Bon, OK. Fait que là, je me dis, je préfère un tas à côté du jardin. Puis là, je plante mes courges là-dedans. Mais là, je me dis, je vais être obligé d'enlever la pelouse en dessous, j'imagine.
Non, même pas. Elle va tout pourrir en dessous si tu fais
Pas de carton.
Non. Aussi, mais de toute façon, avec la masse qu'il va y avoir là-dessus, là.
Il n'y a pas de lumière.
Je t'aime, Lily.
Attends, répète ça, Pierre-Luc.
J'ai dit, je t'aime, Lily, moi j'aime ça. Ah, lève pas à pelouse. J'apprends à mon équipe.
Ben non. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la formation sur le compost, j'étais pas mal stricte. Tu sais, j'étais comme by the book. Tu sais, il faut faire ça, faut pas faire ça, faut faire ça. Là, regarde, avec l'expérience que j'ai eue, il y a un peu. Tu sais, je disais maner parce que normalement, les résidus qui proviennent de la cuisine, ben. Parmi ceux qu'il faut éviter, il y a l'huile. Là, j'explique que bon, si on met de l'huile, ben l'huile recouvre la matière, puis là les micro-organismes peuvent pas y avoir accès. Fait que je disais aux gens, ben si vous avez fait une salade, vous pouvez la manger, là, vous pourrez pas la composter. Aujourd'hui, je suis plus nuancée, là. Je me dis quoi, tu as un petit restant de salade, tu l'as mis au frigo, puis tu l'as un peu oublié. C'est pas la petite quantité d'huile qui va faire la différence par rapport au volume.
Tes noyaux d'avocat, t'es mets-tu dans ton compost?
Qu'un problème.
Pas fatigant, ça? Ah ouais, non, moi, je les enlève.
Ça me dérange pas des avoir dans le jardin, moi. C'est pas... Ils finissent par composter. Des fois, ils germent. Puis même les noyaux de pêche, je les mets. Ça me dérange.
Y a-tu des petites étiquettes de bananes, toi, dans ton jardin?
Non, ça, je mets pas d'étiquettes.
Moi, j'en ai plein.
Je mets pas d'étiquettes. Non, ça m'énerve.
Mais la viande, t'en mets-tu?
Non.
Ben là, tu manges-tu de la viande, toi, PA?
Moi, ça m'arrive, là. Je suis omnivore.
Mange de la viande.
Assumé. Ouais.
Moi aussi.
Il n'y a pas de problème.
Moi, je suis flexitarienne. Flexitarienne,
ça, c'est bon. Ça.
Ouais, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que je suis comme ça, là. Mais j'ai une alimentation principalement végétarienne. Mm-hmm. Mais si je vais manger, pas de viande rouge, ça, pas tellement, mais du poulet, du poisson.
OK. Ah, mais ce que j'ai vu de plus spécial, Lily, dans un compost, c'est chez mon collègue et mentor Denis Lafrance, que tu dois connaître aussi. Là.
Oui,
puis lui, les coquilles d'huîtres, coquilles de moule.
OK, il met tout ça.
Tout ça, puis là, des fois, tu marches dans le jardin.
Crunch.
Faut faire attention, pas marcher pieds nus, pas de trancher pieds. Sais-tu qu'est-ce qu'il dit, Lily, lui, Denis? Il dit, on peut tout mettre dans le compost, sauf grand-maman. Tu peux-tu croire qu'il a dit ça?
Je suis pas d'accord avec ça. Non, ben, tu sais, moi, je forme des gens en ville.
Toi, tu mettrais grand-maman?
Ben oui, certainement.
Non, mais tu sais, je forme des gens principalement des citadins, puis, tu sais, moi, je veux pas de problème. Je veux pas d'odeur, je veux pas attirer la vermine. C'est que, non. Pour moi, c'est... Non, on évite ça, là.
Ben, j'imagine, surtout en ville. T'sais, une ville comme Québec, on le sait, les écureuils sont gras et agressifs.
Hey, tu veux pas, tu sais. C'est parce que si ça sent, puis si ça attire la vermine, ben là, les voisins diraient, « Hey, mon voisin fait du compost, puis ça pue, puis ça attire la vermine. » Fait que, tu sais, je dis aux gens, non. T'es en campagne, t'es loin des autres, là, bon. Là, c'est la matière organique.
Il faut que tu fasses attention. Mais en tout cas, moi, Pierre-Luc, je rêve de finir en compost, c'est que mes descendants mangent le fruit de mes entrailles. Ça, c'est... Non? Qu'ils prennent mon calcium, une bonne bouchée dans une pomme.
Ceci est mon corps livré pour vous.
Paul, j'aimerais mieux être... réduite en cendre, puis à...
Ah, en cendre et retourner au jardin.
Ouais, je pense que je préférerais en cendre, là. En tout cas.
Ben moi, j'ai des tomates, c'est des mémé de Beauce. Je sais pas si c'est parce que ça a poussé dans un compost de grand-mère.
Je connais bien, je la connais bien, ouais.
C'est parlant de variétés de tomates, moi, j'en reviens pas dans ton livre tomates. La quantité de cultivars que tu as documenté, c'est hallucinant, ce travail-là.
L'année où je l'ai écrit, là, la dernière été, là, j'avais 115 plants de tomates dans mon petit jardin de Limoilou. Oh. 115 différents.
Ouais, c'est ça.
Oh là là.
C'était capotant. J'adorais ça. Sauf que là, c'était un petit peu de la monoculture, là.
Oui.
Normalement, je dis pas de monoculture, mais cette année-là, j'étais obligée de négliger d'autres légumes pour faire... prendre la place des tomates.
Tu les as toutes essayées ou presque, là.
Fascinant. Oui, mais les 200, là. Ouais.
Oh my God, mais là, il ne faut pas que l'identification soit mal faite. Ça, c'est une erreur de base, là, je dirais, chez bien des gens, là. Moi, ça m'arrive aussi, des fois, là, de mélanger des variétés, des cultivars. Hey, ça, c'est...
Ouais. Ah non, c'était fascinant, là. Là, je me contente d'une trentaine de plantes.
Puis, t'en as-tu une préférée?
Hey, ça, c'est la question que...
Ouais.
Tout le monde me demande.
Ah, je suis bien plate, Caroline, je suis comme tout le monde.
Ouais, t'es comme tout le monde. Puis souvent, c'est toujours un peu embêtant. J'ai quand même mis mes coups de cœur dans mon livre. Là. Tu sais, j'ai mis quelques coups de cœur. Bon, la mémé de Beauce, ça en est une. La noire de Crimée. J'ai mis la Brandywine. C'est souvent des anciennes variétés, des tomates assez grosses. Là.
Classique.
Mais... la noire de Crimée.
Ouais. Ah, ouais. Ouais, Black Cream ou Noir de Crimée. Mais
je trouve qu'avec avec l'actualité,
c'est le
côté noir en Crimée,
c'est bien, mais bonne pareil. Mais ceci étant dit, les goûts, c'est embêtant. Hein? Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont aimer, tu sais, il y a des gens qui disent « Hey, moi, la taxi, je l'aime. » Tomate jaune pas, là, tu trouves qu'elle goûte rien. Je l'aime pas. Fait que, tu sais, ça dépend des goûts. Faut expérimenter. Il y en a 15 000 variétés, là, tu sais. Maintenant, tu trouves celle que t'aimes, puis tu vas vers ça, tu sais. L'erreur que les gens font, des fois, c'est qu'ils jettent des plants, puis ils prennent plus ou moins note du nom de la variété.
Ouais.
Puis là, ils me disent, là, après ça, ils me disent, « Hey, moi, l'année passée, là, j'ai cultivé une tomate, elle était tellement bonne, j'aimerais ça la retrouver. » Puis je dis, « Elle s'appelle comment? » Je sais pas. Elle était rouge, puis elle avait des feuilles vertes.
Ouais, c'est ça. Comme moi. Je suis à la pêche l'été passé, puis là, j'ai manqué un poisson. J'ai pêché un poisson, puis là, je l'ai perdu en cours de route. Fait que là, je me suis mis à crier sur le lac. Puis là, il y a un bateau pas trop loin qui dit « Hey, c'est quoi ta poignée? » « Ah, je sais pas, il y avait un aileron sur le dos.
»
Ils ont tout un aileron. Je dis, bon, OK.
Non, ouais, mais c'est que l'expression génétique de la plante, finalement, est influencée par un paquet de facteurs. Fait que peut-être que chez vous, elle est super bonne, mais que chez nous, elle va être franchement ordinaire. C'est tellement variable, là, puis d'une saison à l'autre même.
Exactement. Puis je dis souvent aussi que, en fait, la meilleure tomate là, de la saison, là, c'est la première tomate que tu vas cueillir bien mûre dans ton jardin, encore chaude, là, tu sais, croque, là. Ça, là, c'est bon.
Lily, cette saison-ci, la saison 2, on reçoit beaucoup d'invités comme toi, qui sont comme des intervenants avec une touche professionnels qui finalement aident, parce que c'est très démocratique, le jardinage. On voit des gens même qui contribuent à des formations comme toi, à de l'écriture des livres, même à des outils avec certains qu'on a reçus de maraîchers qui vont rendre accessibles. Mais parle-nous de ta perception des 10 dernières années, ou même peut-être encore plus serré, les 2-3 dernières années, à quel point l'engouement, tu le ressens, toi?
L'engouement et les skills des jardins amateurs, ça s'améliore, ça?
Oui, oui, oui. Puis moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que moi j'offre de formation, c'est que au début, c'était surtout des gens 45, 50, 60 ans qui suivaient mes formations. Et là, j'ai beaucoup de jeunes. Vraiment, beaucoup de jeunes. Puis je trouve ça vraiment agréable. J'adore ça, pouvoir...
Des jeunes comme P.A. puis moi, ou des vrais
même
jeunes?
Comme vous autres, mais même plus jeunes encore, là, tu sais. Comme vous autres, en plus, tu sais. C'est ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment agréable de voir. Puis oui, il y a un engouement. Il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans, des fois, avec... Des fois, il y a aussi des fois... Ou bien... ils n'ont pas assez d'informations, puis là, ils manquent carrément leur coup, puis là, après ça, ils abandonnent. Ça, je trouve ça triste. Ou bien, ils veulent tellement qu'ils partent trop gros.
Ouais.
Puis là, ils sont dépassés, puis là aussi, ils abandonnent. Ça, je trouve ça dommage. Fait que souvent, quand je donne des fois des formations, j'essaie de les tempérer, surtout les débutants. Je dis, regarde, commence avec des choses faciles. Cultive des haricots, tes tomates, c'est facile, tu vas bien contrôler, puis après ça, tu iras vers les choux, tu iras vers des choses plus difficiles, mais commence avec des choses plus simples, sinon, c'est parce que la plupart des gens, ça reste un loisir, fait que là, mm-hmm. si ça prend trop de place, à un moment donné, ça devient lourd, ben là, c'est plus fun, là, tu sais. Tu perds le contrôle, puis hier, tu te dis, ben non, j'abandonne. Là. Fait que c'est mieux de commencer petit, puis bien contrôler ce que tu fais, puis commencer par un petit jardin, quitte à l'agrandir, il sera toujours temps. Puis, de toute façon, le sol, quand on part sur un nouveau terrain, ben ça devient pas fertile en claquant des doigts, là, tu sais. Ça prend un certain temps. C'est que faut être patient. C'est ce que j'enseigne, c'est la patience.
Ouais, tout à fait. Puis ouais. Tu parles que des fois, ils ont peut-être pas l'information, mais à l'inverse, je trouve des fois, on appelle ça de l'info-obésité, il y a trop d'informations. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent savoir la bonne information. Puis...
Ouais, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, ils circulent énormément.
On
n'aimera
pas des pages, là, mais t'en vois.
Il faut apprendre à aller chercher la bonne information. Moi, des fois, on me dit « Hey, t'as la fin, j'ai vu ça! » Là, je réponds « C'est qui? Qui a dit ça? »
Donald Trump.
C'est ça, tu sais. Fait que moi, il faut que je sache. Si je fais une recherche sur Internet, je contrôle mes sources, là. Je veux dire, c'est « OK, c'est lui. OK, c'est ça. » Ou « C'est une maison d'enseignement, tu sais. » OK, mais si c'est Pierre Tartampion, c'est quoi sa compétence, là, tu sais? C'est que... des fois, il y a des gens... Je veux pas dire que par là, que ça prend absolument un diplôme pour être capable de jardiner. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience puis ont quand même une certaine compétence, là. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais, effectivement, il y a beaucoup de gérants d'estrade, je dirais.
Puis, c'est quoi les erreurs de base qu'un débutant fait, que tu vois souvent, là, si t'en as une, deux, trois en tête, là, à nous partager?
Ben, ah oui, une erreur que les gens font souvent. On fait un nouveau potager, on s'achète une maison, on a un nouveau terrain, on fait un nouveau potager. Où c'est que j'en jette ma terre? Ma question, c'est ça. Ben, pourquoi t'en jettes de la terre? Pourquoi t'en jettes de la terre? Ta terre est pas bonne? Oh, je sais pas. Ben, commence par vérifier. Qu'est-ce que t'as? C'est sûr que si c'est un nouveau développement, ça se peut qu'il n'y en ait pas beaucoup de terre, ça se peut que tu sois obligé de l'acheter. Mais si t'achètes un terrain qui est déjà, une maison qui est déjà bâtie depuis 20, 30, 40 ans, il y a des fortes chances que la terre que t'as là, elle soit de meilleure qualité qu'à peu près n'importe quoi ce que tu peux acheter.
Ah ouais.
Essaie de fonctionner avec la terre que t'as autant que faire se peut. Puis au lieu d'acheter de la terre, puis d'acheter des problèmes, parce que j'ai vu plein de gens acheter des problèmes, acheter des plantes adventices, acheter des maladies, acheter de la prêle, ben, achète donc du compost pour commencer si t'en as pas. Mmh. Améliore ton sol plutôt de le changer, tu sais. Parce que aller chercher, on peut pas décaper continuellement les terres pour avoir de la bonne terre, tu sais. Souvent, ce qu'on va vendre, c'est un mélange des fois de sable avec du compost, t'sais. Fait que c'est pas toujours de la grosse qualité.
C'est pas écologique.
C'est pas écologique.
Voilà, c'est bon,
exactement.
Mais est-ce que tu conseilles aux gens d'aller faire tester leur terre ou d'utiliser des trucs là, de l'appréhension et tout ça pour voir c'est quoi ton sol?
Oui. Ben il y a des petites techniques qu'on peut faire là, pour évaluer la texture puis évaluer, bon, si c'est un sol plus ou moins acide. Il y a des choses qu'on peut faire par l'observation. Mais effectivement, si c'est une première année, les analyses de ça, je vais conseiller ça à deux moments. Tu fais un jardin première année, tu n'as aucune idée du sol, c'est intéressant, ne serait-ce que pour le pH. Tu sais, ça, c'est une information qui est intéressante à savoir. Je dirais oui, pour commencer, ça, c'est intéressant. Ou sinon, ceux qui ont déjà un potager, qui est un jardin, de façon générale, qui est déjà en fonction, puis ça va bien, même année, pouf, ça va pas bien cette année, je sais pas ce qui s'est passé, on comprend pas, on a fait comme d'habitude, mais ça, il a fait beau, j'ai arrosé comme d'habitude, j'ai fertilisé comme d'habitude, mais ça a pas bien fonctionné. Fait que, à ce moment-là aussi, je conseille de faire une analyse de sol. Mais en d'autres temps, ouais, c'est ça, il y a l'observation, puis les analyses qu'on peut faire, l'analyse texturale qu'on peut faire. Là, ouais.
Mais... C'est quoi qu'on peut découvrir, mettons, c'est ça, je reprends ton exemple de « ça a toujours bien été, mais cette année, ça va pas bien ». C'est quoi qu'on risque de trouver dans l'analyse de sol qui va nous répondre à nos questions?
Ben le pH, entre autres, si le pH a varié... Quand on a des bonnes pratiques, on utilise du compost, puis que bon le pH est relativement stable, là, légèrement neutre ou légèrement acide, puis ça va bien. Mais si pour une raison ou une autre, il y a des gens qui on parlait de la sente tantôt, puis il y a des gens qui ils ont appris de leurs parents ou de leurs grands-parents, mettre de la sente dans le jardin. On met de la sente, on met de la sente, on met de la sente. On met de la sente, ma mère faisait ça, on met de la sente, on met de la sente, on met de la sente. À un moment donné, ça pousse plus. Mais le pH est rendu trop élevé.
C'est la métaphore du jambon là, que mon ami me répète tout le temps. C'est une fille qui fait un jambon, puis elle coupe les deux bouts du jambon avant de le faire. Fait que là, sa fille, il dit « Pourquoi, maman, tu coupes les deux bouts du jambon? » »« Ah, ben c'est parce que ma mère, elle faisait ça. » Fait que là, la fille, elle arrive plus tard en appartement, elle s'achète un jambon, elle coupe les deux bouts. Puis là, ses colocs qui disent « Pourquoi tu coupes les deux bouts, tu sais? » »« Ah, c'est parce que ma mère et ma grand-mère faisaient ça. » Fait que là, elle appelle sa grand-mère, puis elle dit « Hey, pourquoi il faut couper les deux bouts du jambon? » Elle dit, ben, c'est parce que moi, mon chaudron est trop petit. Oh! Non, mais c'est bon. Fait que je trouve que ça exprime bien. Là.
C'est bon.
C'est juste une question de chaudron pour elle. Fait que des fois, il y a des choses qui se transmettent puis que ça, c'est pas une...
Ouais.
C'est...
Effectivement.
C'est mal dosé.
Ouais. C'est bon. J'aime beaucoup ton anecdote. Ouais.
Tu la mettras dans ton prochain livre.
Ouais, OK, c'est beau.
Moi, Lily, ce que j'entends dans ce que tu nous expliques, c'est que t'es plus une fille de potager en plein sol qu'en bac, là. C'est ce que je comprends bien?
J'ai remarqué les dernières années que les gens capotent sur les bacs. C'est la mode, il y a des bacs partout.
C'est pas écologique, ça, là? Ça coûte cher, des bacs?
Ben, en fait... je trouve ça intéressant pour les gens qui peuvent... pas cultiver en pleine terre, pour différentes raisons. Ben parce qu'ils n'ont pas accès à la terre. Y a des gens qui sont malades, qui sont vieillissants, qui ont mal dans le dos, qui ont de la misère à se pencher. C'est une excellente alternative. Mais pour tous les autres qui peuvent jardiner en pleine terre, c'est... Moi, j'encourage davantage vraiment de cultiver en pleine terre. C'est beaucoup plus avantageux, comme je disais, c'est plus écologique. En pleine terre, les plantes, d'abord, ils ont la possibilité d'aller chercher avec leurs racines. Hein, s'ils manquent d'eau, manquent d'éléments minéraux, ben ils vont aller chercher plus loin. Ils sont plus autonomes, tu sais. C'est que c'est plus facile. Il y a de la vie dans un sol, tu sais. Tandis que dans un bac, mettre la vie, c'est pas toujours évident. T'sais. Les gens disent, on va mettre des vers, ben, tu sais, c'est pas que les vers, ils passent pas l'hiver, justement. Fait que, tu sais, c'est pas pareil. Fait que, oui, autant que possible, moi, j'encourage beaucoup à cultiver en pleine terre. Ceci étant dit, j'ai à peu près, en plus de cultiver en pleine terre, j'ai une vingtaine de pots ici dans mon jardin. Parce que moi, j'expérimente. Je donne des formations aussi sur la culture en pot pour ceux vraiment qui peuvent pas. Je dis, bon, quel type de pot, des grands pots, si c'est possible, des pots réserve d'eau. En tout cas, bref, quand c'est pas possible, oui, tu sais. Fait, bon, mes pots, ils vont être placés cette année dans l'entrée d'auto. L'entrée d'auto est en gravier. Il y a de la place pour trois autos. On a une. Fait qu'il va avoir un espace. Là, ils sont répartis un peu partout autour de la maison. Cette année, j'ai décidé de me faire un jardin de pots. Fait que j'utilise cet espace-là pour que
ça va être cute.
Puis des pots, des smart pots que tu prends?
J'ai toutes sortes de choses. Les smart pots, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, le vrai terme, c'est sac en géotextile. Hein, smart pot, c'est une marque comme frigidaire. C'est intéressant. Les plantes poussent super bien dans ça. Mais au niveau de la surveillance, au niveau de l'eau, c'est quelque chose. Il faut être très vigilant. Donc, il faut arroser plus souvent parce que ça perd beaucoup son eau. Ça pousse bien. Les pots que j'aime beaucoup, les contenants que j'aime beaucoup, je l'ai glissé un peu un mot tantôt, c'est des contenants en réserve d'eau. C'est, je vais faire une petite recherche, vous allez trouver ça facilement. Là. C'est un contenant qui contient il y a une partie inférieure qui contient la réserve d'eau. La partie supérieure contient le terreau et les plantes. Entre les deux, il y a un système, on peut appeler ça c'est un système de mèche, si on peut dire, qui amène l'eau de la réserve dans la partie supérieure. Fait que ça, c'est pas mal intéressant pour les gens, entre autres, qui cultivent des tomates en pot. Parce que la tomate n'aime pas l'irrégularité en eau. Elle n'aime vraiment pas ça. Fait que ça permet d'avoir une constance. Ça permet aussi de prendre quelques jours de congé, parce que quand tu cultives, quand tu es en pot, si tu pars en plein mois de juillet, à 4 jours, ça se peut que tu aies des problèmes avec tes plantes. Fait que ça, j'aime vraiment, là, c'est pas mal mes préférés pour les légumes, là.
OK. Mais ça, ça te prend des bons voisins, sinon.
Pardon?
Ça te prend des bons voisins, sinon, qui viennent arroser.
Oui, c'est ça. Puis encore là, ben, question gestion de l'eau, tu sais, gestion écologique de l'eau. J'ai écrit un livre là-dessus, hein?
Ben oui.
De l'eau au jardin. Fait que, tu sais, dans mon livre, je parle d'abord, avant de penser à arrosage, comment minimiser les besoins en eau.
Ben oui, ouais.
Pour avoir à utiliser de l'eau potable là, autant que possible. Bon, maintenant, on y vient, on n'a pas de choix, là, les plantes ont besoin d'eau. Mais d'abord et avant tout, on essaie de minimiser les besoins en eau.
Il reste le livre des fines herbes dont on n'a pas parlé, pas que je m'étais donné la mission de parler de tous tes livres, Lily, là, mais quand même, parce que je nous ramène à démarrer ceux qui commencent. Il me semble que c'est une bonne façon de commencer, là, le thym, la coriandre, tout ça. Oui. Tu es d'accord avec moi, la sauge?
Ben, je dis souvent que parmi les plantes comestibles, là, si on parle de légumes, fruits, fines herbes et autres, là, c'est les fines herbes qui sont les plus faciles à cultiver. Effectivement, pour les débutants, c'est un bon choix. Quand j'ai conçu mon livre, c'est parce que je réalisais que les gens consomment de plus en plus d'herbes fraîches. Ils aiment ça, ça se vend au supermarché, les gens en consomment beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup, je dirais, de cuisiniers qui consomment, qui achètent des fines herbes, mais qui ne savaient pas les jardiner. À l'opposé, je voyais qu'il y avait beaucoup de jardiniers qui cultivaient des fines herbes, mais qui les utilisaient pas tant que ça en cuisine. Fait que de là, les fines herbes de la terre à la table, puis je me suis associée avec une cuisinière de métier qui a conçu des recettes qui m'a vraiment aidée à ce niveau-là, au niveau de la consommation, pouvoir dire, ben, regarde, cette herbe-là, là, la sauge, pourquoi faire avec ça? Ben là, elle a conçu une recette de haricots à la sauge. C'est délicieux, tu sais, c'est simple, c'est vraiment bon. Moi, j'aimais pas la sauge.
À pizza, crème et champignons. Avec la sauge. Excuse-moi de t'interrompre.
Non, tu m'interromps pas, je trouve que c'est une bonne idée. Fait que c'était un peu l'idée, là, sous le projet de fines herbes. Ça a été un beau gros projet, ça aussi, 350 pages, je pense.
Quand même.
J'avoue, moi aussi, mes fines herbes, ils me servent plus à me brasser à main dedans, dans le fond. Mais c'est pas mauvais, là, je veux dire, mais passer à main dedans, mettre ça sous le nez, ça égaye la journée.
C'est bon aussi pour le mental. Moi, je fais, entre autres, parmi les fines herbes, je fais toutes mes tisanes.
Oui.
Si on parlait d'agastache tantôt, agastache, mélisse, menthe, camomille, je fais du basilic sacré. Tu sais, c'est obligatoirement, là, ça, c'est déjà parti dans mon sol, les semis, là, pour la plupart.
Ouais.
Puis ça va être mes tisanes pour l'hiver prochain, là.
T'as un déshydrateur qui doit rouler à fond, là. À la fin de la saison, j'imagine.
Non.
Tout séché,
c'est pas écono-logique.
Ah, vous me ramenez à l'ordre.
J'avoue que
je vous aime.
En fait, pour répondre à ta question, j'ai deux déshydrateurs. Je les utilise plus pour mes tomates ou autres légumes. Les fines herbes, pour la plupart, je les fais sécher selon, j'appelle ça la méthode, des petits bouquets.
Oui, OK, je vois.
Suspendus. Ça fonctionne très bien. Mes fines herbes sont très belle et je peux en faire beaucoup en même temps. J'ai pas à m'en préoccuper.
Oui.
Parce que, c'est ça, sans énergie.
Dans le cabanon, genre, ou?
Dans la chambre d'amis.
Ça doit sentir bon.
Ouais, à la fin de l'été, là, la chambre d'amis, là, je ne reçois pas d'amis, là. J'ai carrément des cordes, là.
Ouais.
Ça pourrait être dans le cabanon. Il faut que ça soit un endroit qui est quand même chaud, là. Au deuxième étage, chez nous, c'est plus chaud. J'ai déjà fait au sol, c'est un petit peu humide, c'est un petit peu
Ouais, c'est plus difficile.
Plus risqué, là. Ça peut se faire aussi. Des fois, j'en fais là aussi. Mais ça va très, très bien. Ça sèche tout seul. Je fais mes petits bouquets. Je les oublie. Puis, au bout d'une semaine, 10 jours, je ramasse ça. Puis, c'est prêt.
La patience.
Pour la plupart.
La patience.
Ouais. C'est la patience, ça. Encore ouais. Là. Ouais. Oui.
As-tu déjà une idée de quel sera ton prochain livre, Lily?
Oui, mais vous le saurez pas.
Ah!
Bon, je vais te poser une autre question d'abord. Ça s'en va où? On va terminer avec ça. Ça s'en va où, l'agriculture urbaine? Dans l'innovation, ouais. Dans les modes, à okay. Ton avis?
C'est, en fait, moi, je suis convaincue que c'est plus qu'une mode. C'est vraiment plus qu'une mode. C'est là pour rester. Écoute, c'est là qu'on habite en ville. Et que si on peut se nourrir, dans notre jardin, peut-être dans des jardins communautaires, peut-être dans... Aussi, il se fait de plus en plus de production, de vrais producteurs urbains. C'est que, tu sais, si on n'a pas à transporter, bon, on le sait, là, les changements climatiques et les effets du transport et tout, là, c'est que moi, c'est beaucoup plus qu'une mode, là. J'en suis convaincue.
Ben, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on fait ce balado-là, justement, ouais. Parce que on sent là, qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent avoir ça près d'eux, prendre en main leur alimentation. Puis, ils ont des bons outils, comme les 5 livres, les 6, les bientôt 7 livres de Lily Michaud. Merci beaucoup, Lily, ouais. D'avoir partagé tout ça avec nous autres.
Ben, merci à vous deux, c'était bien agréable.
Merci, vraiment, là, un beau moment qu'on a passé avec toi. C'est vraiment généreux de ta part.
Même chose pour moi.
Oh, une chance qu'on s'aime.